préciser, continuer ce cours sur la personne. Alors, il y a des petites questions. Sartre veut une éthique sans finalité. Une éthique du choix libre, voulu pour lui-même. N'est-ce pas identifier la nécessité de la finalité avec celle de la propriété? Je reviendrai là-dessus. C'est sûr, le « je suis » au point de vue éthique et au point de vue métaphysique. Alors, on reviendra là-dessus. Comment découvre-t-on la nature humaine dans la personne? Ça, oui. Alors, comprenons que le problème de la personne se situe au terme de toute cette enquête que nous avons faite au point de vue métaphysique. Il faut bien situer. La métaphysique présuppose les enquêtes diverses sur la philosophie. Normalement, je peux commencer tout de suite la métaphysique, mais normalement, c'est quand même au terme. Et au terme de la métaphysique, on entre en théologie naturelle. Et il y a le jugement de sagesse. Je crois qu'il faut quand même toujours un peu respecter cet ordre génétique pour bien situer les problèmes. La nature humaine se découvre à quel niveau? La nature humaine se découvre dans la recherche de l'âme et du corps. C'est la philosophie du vivant. Et c'est la philosophie du vivant qui est la philosophie de l'homme, comme tel, de l'homme vivant, de ce vivant particulier que je connais immédiatement, dont j'ai une expérience privilégiée. Tandis que celle du chien et du chat, je n'ai pas une expérience privilégiée. Je projette sur le chien et sur le chat ce que je découvre au plus intime de moi-même. C'est-à-dire que je découvre que le vivant est un être qui se meut, qui se développe, qui se nourrit, qui respire, qui pense à certains moments, qui aime. Ensuite, nous entrons en philosophie première. De la philosophie première, nous essayons de préciser la personne. Vous voyez bien. Et nous avions dit la dernière fois que pour entrer dans ce problème de la personne, étant donné la petite topic historique que nous avons fait, nous avons vu que c'était une arête, le ski de printemps, que de fait, on rejoint dans ce problème sur la personne à la fois le premier moment où s'est posé le point de vue de la personne, les stoïciens en philosophie grecque, les néoplatoniciens avec l'hypostasis, et puis que le problème de la personne avait repris une importance très grande dans la théologie de saint Thomas. C'était toujours resté avec la définition de Boèce. Mais en théologie de saint Thomas, ça prenait une importance très grande, et je vous avais dit ce que je crois, ce qui serait intéressant de préciser, que c'est peut-être ce qui caractérise le mieux la philosophie de saint Thomas. C'est une philosophie, une théologie de la personne, dans le très grand sens. Ce serait original, au moins, de faire ça. Parce que je crois pas qu'on a vu saint Thomas, grand théologien de la personne. Et je crois que c'est vrai. C'est pas pour l'originalité, c'est parce que je crois que c'est vrai. Parce que la personne est le point de rencontre d'une quantité de choses. Ce que nous essaierons de voir. Et alors, en essayant de préciser ce que de la personne, on verra bien que la théologie de saint Thomas est une théologie qui a mis un équilibre extraordinaire entre nature et personne. Entre esprit et nature. Entre personnes. personne humaine et Dieu, entre personne humaine et le mystère de Jésus, entre personne et l'Église, quasi una persona. Il le dit quand même. L'Église, c'est quasi una persona. Donc en définitive, il définit l'Église par la personne, ce qui n'est pas si mal. Aujourd'hui, on prend le peuple, tandis que Satanas, c'est quasi una persona. C'est quand même quelque chose d'assez fort d'avoir vu ça. Et je crois que la personne correspond, nous essaierons de le vérifier, dans saint Thomas, à le transcendantal, à liquide. Si c'est ça, si c'est vrai ce que je dis là, on saisit la clé de saint Thomas et de toute sa théologie. Parce que à liquide représente, au point de vue des transcendantaux, vraiment l'originalité de saint Thomas. Et je crois qu'il y a une correspondance entre les deux. Ça, c'est un peu l'hypothèse de recherche, vous voyez, que saint Thomas a suscité quand on est attentif à saint Thomas. On ne le découvre pas tout de suite. C'est vrai, j'ai mis du temps avant de découvrir ça dans saint Thomas. Et je n'aurais pas dit ça, que c'était ce qu'il y avait de plus original dans saint Thomas, cet équilibre de la personne. Je le crois. Ce qui est très curieux, c'est qu'après saint Thomas, il y a une perte de l'âme humaine. Et le problème de la personne reprend une importance énorme chez les contemporains. Pas les derniers contemporains, puisque cela, il y a la perte de la personne. Mais si vous voulez, il y a eu une recherche de la personne très très grande, à un moment donné, qui est comme, je crois, le nœud autour duquel on voit le rayonnement. Mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est peut-être par le problème de la personne qu'on touche le mieux les anciens et les contemporains. C'est toujours important, quand on fait une comparaison, de voir quel est le point de contact le plus vrai, pour mieux saisir aussi la plus grande diversité. Parce que si aucun point de contact, vous voyez, j'ai essayé de parler de l'âme, les contemporains n'en parlent plus. Bon, il n'y a pas moyen de se rejoindre. Ils parlent de la personne, je peux parler de la personne. Donc, on peut essayer d'accorder nos violons. Et c'est pas commode. Mais on peut essayer de voir où il y a un point de contact, où il y a quelque chose de juste, des deux côtés, et comment, en même temps, c'est très divers. C'est dans ce sens-là que je crois que le problème de la personne est très important pour nous aujourd'hui. Même pour la conception politique. C'est au fond un point très très important. Vous voyez, beaucoup plus que la liberté, c'est très curieux. Parce que c'est plus central. On serait tenté de dire que c'est le problème de la liberté. Et le problème de la liberté n'est quand même pas le problème métaphysique. Au sens fort. C'est le problème éthique. C'est le problème psychologique. Tandis que la personne demeure un problème métaphysique qu'on doit traiter en métaphysique et qu'on doit traiter en éthique. Donc, ceci, c'est pour vous faire comprendre que le problème de la personne va impliquer le point de vue de la nature et le point de vue de la substance, ou le point de vue de la substance et le point de vue de la nature. Alors, vous allez tout de suite voir comment, en reprenant la petite analyse que nous avions faite la dernière fois, réfléchir sur le « je suis ». Et ma réflexion philosophique commence par là. Quand je reprends le problème de la personne, après avoir vu toute la diversité au point de vue topic historique, je reprends un problème qui s'impose à moi. Cette expérience que j'ai du « je suis ». Et j'essaie de comprendre la profondeur du « je suis ». Pour mieux comprendre la profondeur du « je suis », je compare ceci est et le « je suis ». Et ça, je crois que c'est très important. L'avantage, vous voyez, c'est que là, j'ai le point de départ de la métaphysique. Et d'une certaine manière, j'ai le terme. Comment selon la pensée heideggerienne de la pensée, vous pouvez faire ce petit chêne que je crois être juste, sur lequel vous pouvez réfléchir. Je suis, vous voyez, ce n'est pas le moi psychologique. existait. Il y a là donc quelque chose de très particulier qui implique votre corps. Je suis dans mon corps. Et vous pourrez très bien dire, je suis mal dans ma peau. Ça peut arriver certaines heures. À d'autres moments, au contraire, je suis. J'existe. Alors, réfléchissez bien sur ça en comparant les deux. Vous pourriez aller plus loin et mettre le troisième jugement d'existence. et que l'être se ramène au jeu. Donc il faut savoir ce qu'est l'être, sous ses diverses modalités, pour savoir ce qui est appliqué dans le je suis. Et donc comprendre le comment profond de l'être. Toujours, je ne comprends le comment qu'après l'analyse. Puisque c'est l'erreur des stoïciens. C'est même l'erreur des néoplatoniciens de vouloir résoudre immédiatement la question du comment. C'est l'erreur de Descartes, c'est l'erreur fondamentale de la phénoménologie, de vouloir tout de suite regarder le comment. C'est l'erreur du positivisme. Il faut dépister cette erreur très fondamentale depuis les stoïciens jusqu'à nos jours. Je ne dis pas que c'est l'erreur de Platon. C'est là la différence. mon autonomie dans l'ordre de l'être. Quand je dis je suis. Quand vous dites je suis, vous ne dites pas je suis dépendant. Non, 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 non. Vous dites que vous existez, et vous existez en vous-même. Et vous savez bien que vous existez en vous-même, que vous avez une certaine autonomie. Je ne dis pas l'autonomie absolue. Parce qu'il y a toujours à côté de moi un autre qui dit je suis. Il y a toujours le miroir dans l'ordre de l'être, et l'autre qui dit je suis. Alors ça vous ennuie énormément. Parce que si l'autre dit aussi je suis, vous êtes bien obligé de reconnaître que votre je suis n'est pas absolu. Mais il est quand même absolu. Vous voyez la liquide qui est là présent. Vous êtes indivisible dans votre je suis. Il y a quelque chose d'indivisible dans votre être. Puisque le je suis assume tout votre corps, assume tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes implique ça. Donc l'indivisibilité d'une détermination radicale est une source. Donc le je assume Ousia. Et je n'identifie pas du tout les deux. Je dis simplement que le je assume Ousia, c'est-à-dire la détermination radicale dans l'ordre de l'être qui est présente dans le je. Mais ce n'est pas l'Ousia, parce que c'est la manière d'exister de l'Ousia dans le je. Et donc, intègre tout de suite le pose de l'Ousia. Le pose de l'Ousia, c'est qu'elle subsiste. Et c'est bien ça le je. C'est cette détermination fondamentale de l'être qui subsiste. Et c'est appliqué dans le jeu. J'ajoute, parce que c'est intéressant, c'est curieux, le jeu, j'en ai l'expérience quand même. Est-ce que c'est une expérience interne ou une expérience externe? Quand vous dites « je suis », quelle est votre expérience du « je suis » ? Est-ce que c'est « je me touche, je suis » ? Ah, j'ai besoin de me toucher pour dire « je suis ». Non, j'ai pas besoin de me toucher pour dire « je suis ». Quelquefois, quand je m'endors, j'ai besoin de me toucher, oui. C'est un code, on donne un coup de poing pour me réveiller, bon, je suis, bon, très bien. Mais vous voyez, c'est pas l'expérience externe, c'est l'expérience interne. Mais non, c'est pas l'expérience interne. Et pourtant, c'est quelque chose d'immédiat. C'est curieux. Alors c'est quoi? Vous voyez, quand Husserl essaie d'exprimer ce que c'est que le jeu, il essaie de dire quelque chose comme ça. Le jeu, condition sine qua non de toute expérience externe et de toute expérience interne. Et donc le jeu fait le lien entre l'expérience interne et l'expérience externe. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il fait le lien entre les deux. Condition sine qua non. C'est pas un principe, le jeu. Mais c'est la condition sine qua non de toutes mes expériences externes. Je touche, je sens, je vois, je dors. L'expérience interne, j'aime, je connais, et toutes mes expériences internes. Condition sine qua non. Le noyau qui réunit toute expérience externe et toute expérience interne, présent à toutes les expériences externes, présent à toute expérience interne, et il n'est pas, il ne peut pas se ramener à une expérience, impossible. Il en est la condition sine qua non, mais beaucoup plus que la condition sine qua non, il en est le centre. C'est la substance dans l'ordre de l'être qui existe. C'est bien ça la substance, c'est la source de toutes les autres déterminations. Et qui est là au centre, dans l'ordre de l'être. Alors voyez la supériorité du je sur la substance. C'est que la substance, je l'ai induite. Le je ne l'ai pas induit. Ce serait bien bête d'induire le je. C'est immédiat. Tout le monde comprend quand dit je suis. Pas besoin de faire de la métaphysique. Je suis. Il y a une conscience immédiate. Et d'une certaine manière, crois bien que le « je suis » n'est pas du tout le « moi » psychologique. C'est bien plus profond. C'est quelque chose de bien plus radical. Donc, le « je suis » intègre la substance. C'est ça qui me semble important à souligner. Il intègre immédiatement. Parce que je suis dans l'ordre de l'être. Je suis. Et la substance, ce principe, selon la forme de ce qui est. Donc, le « je » intègre ça. Ce « comment » dans l'ordre de l'être implique la substance et implique, j'ajoute, le « pose » de la substance, le « comment » de la substance, donc la subsistance. Le « je » subsiste. Il subsiste dans l'ordre de l'être. Quand je dis « je suis », je subsiste dans l'ordre de l'être. Et j'en ai conscience, et d'une certaine manière, je ne dis pas que j'en ai l'expérience, puisque c'est au-delà des expériences, et c'est présent à toute expérience. Donc, situation très particulière. C'est ça qui est très intéressant. Situation originale du je suis. Vous pouvez ramener le je suis à aucune catégorie. Vous pouvez pas ramener le je suis au moi psychologique. Situation très unique. Alors, cette situation très unique, comment on la comprend? Mais oui. Parce que c'est le comment dans l'ordre de l'être. C'est le comment dans l'ordre de l'être. C'est ce qu'il y a de concret dans l'ordre de la substance. Allons un peu plus loin. Il faut procéder d'intégration. Vous voyez, c'est un procédé d'intégration, le comment. J'intègre toute la richesse qui a été vue avant dans les analyses. Au sens strict, c'est pas une conclusion. C'est pas une conclusion. La découverte du je suis n'est pas une conclusion. C'est plus qu'une conclusion. C'est plus. Ce que je pourrais dire, c'est une conclusion. Et non, c'était une conclusion. La personne serait relative à la substance. Et la personne n'est pas relative à la substance, elle est le pose de la substance. Mais pas n'importe quelle substance, de ma substance. Alors là aussi, c'est une chose très importante à bien comprendre. C'est que c'est ma substance. Et je l'ai dit spontanément. Tandis que quand vous découvrez la substance, vous la découvrez la substance comme un principe. Tandis que là, vous découvrez ma substance. Votre substance. Quand vous dites « je suis », vous découvrez votre substance. Pourquoi ? Parce que vous avez ramené la substance à vous. À cet être concret que vous êtes. À l'homme que vous êtes. Vous ramenez la substance à ça. C'est ma substance. Précisons. Ce « je suis », il implique un vivant. C'est bien évident. Je suis, c'est moi vivant. C'est moi qui vis, c'est moi qui opère toutes les choses. Donc, il implique le point de vue de la vie. S'il implique la vie, cette substance, c'est donc mon âme. Le je suis intègre, c'est normal, l'âme humaine. Mais ce n'est pas l'âme humaine saisie comme principe, c'est l'âme saisie dans son pose concret, l'âme qui anime un corps, l'âme qui fait subsister un corps, mon corps, parce que dans le je corps est appliqué individuellement. Dans le jeu, mon corps est appliqué individuellement. Je suis. J'aime. C'est mon âme. Mon âme spirituelle. Avec mon corps. Je peux donc dire que le jeu implique la nature humaine. Vous voyez comment? C'est la réponse. Comment découvre-t-on la nature humaine dans la personne? C'est à partir du je que j'intègre substance et âme et corps. Tout ça est impliqué, je ne peux pas le séparer du je. Ce ne serait plus toute la richesse qui est impliquée dans le je et dans la conscience profonde est de l'âme subsistant dans mon corps. Et c'est mon âme qui subsiste dans mon corps. Le je. C'est mon âme qui subsiste dans mon corps. Et cette complexité est impliquée dans le je. Mais le je exprime quelque chose de plus que la complexité, l'unité. Il y a une unité dans cette complexité. Et il y a une certaine simplicité dans le je suis. Puisque c'est au-delà de toutes les déterminations. Alors, là encore, vous voyez, je constate cette chose très particulière. C'est que j'aime mon âme. J'ai une expérience affective de mon âme. J'ai une connaissance philosophique de mon âme. J'ai une connaissance affective aussi de mon âme. J'ai donc une connaissance affective du je suis. Et c'est sûr. Je peux dire je suis, je m'aime. Ou bien au contraire, j'ai une haine contre moi-même. Ça existe par moments. Et que ça dure un peu. Je ne peux plus me supporter. Ça devient odieux. Alors, il faut toujours dire, rassurez-vous. Parce que c'est pas vous qui êtes en haine contre vous. C'est votre imagination. C'est parce que vous ne vous supportez plus. Parce que vous avez fait quelques grosses gaffes. Alors vous identifiez votre gaffe et vous-même, ce qui est tout à fait faux. Votre jeu ne peut pas s'identifier à telle ou telle action. Et donc, petit à petit, vous arrivez à comprendre que le jeu, dans le je suis, je l'aime. Ça sauve tout. Et c'est très important de comprendre que je ne peux pas identifier mon âme, mon je suis, avec telle ou telle gaffe que j'ai faite. Tandis que lorsque vous avez fait quelque chose de bon, vous dites « Ah, c'est bien moi qui l'ai fait. Hein ?» C'est très curieux. Vous le reprenez, vous le réintégrez. Et c'est bien de le réintégrer. Le bien est plus proche de la personne que le mal. Ah, c'est curieux, ça. Et le bien est plus proche. Il est plus immédiatement intégré à l'être, donc où je suis, que le mal. Le mal n'est pas immédiatement intégré. Et c'est l'imagination qui fait cette espèce d'intégration. Et je sauve ma peau quand je montre la différence entre le je suis et puis ces bêtises que j'ai pu faire et que je pourrais continuer de faire. Mais c'est pas moi, c'est pas mon je profond, c'est pas mon je pris dans ce qu'il a de plus lui-même. Vous voyez, toute l'intégration que je fais dans le je suis, c'est très très riche. Alors vous voyez mieux maintenant toute la différence qui existe entre le je suis et ceci est. Et vous comprenez maintenant mieux, j'espère, pourquoi vous ne pouvez pas commencer la métaphysique par le je suis, et que vous devez commencer la métaphysique par ceci est. Parce que si vous commencez la métaphysique par le je suis, d'abord, vous n'avez pas l'analyse de la substance. Pouvez-vous atteindre la substance par le je suis? Situé en premier. Je dis non. Parce que dans le je suis, ma manière d'exister est tellement riche que je ne la quitte pas. Je suis dans l'immanence. Et je demeure dans l'immanence du je suis. Donc, je m'enlise métaphysiquement dans ma manière d'exister. L'enlisement du pose, c'est l'enlisement le plus profond, le plus radical et le plus général. C'est un enlisement, point de vue. séduisant. Mais ça ne dépasse pas le jeu. Alors une métaphysique qui ne dépasse pas le jeu, vous comprenez, c'est pas la métaphysique de l'être, c'est la métaphysique de vous. Et la métaphysique de vous, il n'y a que vous qui l'aimez. Comment voulez-vous que je fasse votre métaphysique? Vous êtes dans une situation privilégiée pour faire votre métaphysique de vous, ça ne va pas très loin. Puisque vous ne pouvez pas saisir et analyser l'être dans le « je suis ». C'est curieux que le « je suis » répugne à l'analyse de l'être, tandis que « ceci est » conduit à l'analyse de l'être. Et là, on revient à ce qu'on avait vu au point de départ de la métaphysique, et on revient avec toute la possibilité de mieux saisir cet abîme qui existe entre eux. Ceci est je suis. Aristote, Descartes. Descartes, c'est je suis. Cogito, ergo sum, cogito, je suis. Le ergo, c'est par politesse pour la métaphysique. Mais en réalité, c'est le cogito qui absorbe la métaphysique. C'est le je. Cogito, je, qui prend tout. Alors, il existe, oui, intentionnellement. Mais c'est la métaphysique de Descartes, la philosophie, la méditation métaphysique de Descartes, qui commence par le je suis. Et vous vous enfermez dans l'immanence, tandis que dans le ceci. Donc, première intégration, hein. J'espère que ça vous la comprenez bien, première intégration, la substance. L'âme, le corps, la subsistance, le je suis.